RTL Info.
Le journal Marie-Lise Saillard.
Bonsoir. La sécurité de Neuchâtel change de visage. La ville va réorganiser l'ensemble des services communaux de sécurité sous une seule direction dès le 1er janvier 2018. Conseil juridique, conseil psychologique, les parlementaires suisses qui le souhaitent pourront désormais confier leurs problèmes de harcèlement à des spécialistes. Les demi-finales de la Coupe de la Ligue dans le viseur d'Union Neuchâtel. Les basketteurs du littoral reçoivent les Tessinois de Sam Massagno ce soir à la Riveraine pour une place dans le Final fort de la compétition. L'occasion peut-être d'aller voir la nouvelle recrue du club, le Serbe Milovan Rakovic. La météo de demain en quelques mots, perturbations, vent et neige entre 800 et 1200 mètres. Les syndicats d'enseignants neuchâtelois ont remis leur pétition aux autorités cantonales. Ils dénoncent les mesures d'économie du Conseil d'État inscrites dans le plan financier de législature 2018-2021. Les enseignants protestent en particulier contre le projet de hausse du nombre d'élèves dans les classes primaires du canton. La pétition en ligne lancée il y a une semaine contre ce projet a récolté 3860 signatures. Le cercle scolaire de Val-de-Ruz, lui, est le lauréat du prix suisse des écoles 2017. Le titre lui a été décerné aujourd'hui. Il récompense le travail réalisé depuis la création du cercle en 2012. Le SIS va disparaître à Neuchâtel. Les pompiers et ambulanciers seront intégrés dans le nouveau service communal de la sécurité dès le 1er janvier. Avec cette opération, le SIS sera scindé entre les pompiers professionnels d'un côté et les ambulanciers de l'autre. Les explications de la conseillère communale en charge de la sécurité, Violaine Blétry de Montmolin.
Nous avons absolument maintenant besoin de former différemment les pompiers que les ambulanciers. Donc nous ne pouvons plus compléter les missions par les uns et par les autres comme ça se faisait avant sous la forme du SIS regroupé. Donc nous avons maintenant ici dans cette nouvelle caserne de la sécurité de la ville de Neuchâtel, nous avons regroupé les différentes compétences mais qui ne peuvent plus collaborer comme on le faisait par le passé parce que les normes évoluent, les formations demandées évoluent et la population se doit aussi d'avoir évidemment toutes les compétences propres à chaque quantité.
Donc les pompiers seront de leur côté, les ambulanciers de l'autre. C'est maintenant il y a un mur entre les deux.
Alors c'est pas qu'ils peuvent plus aller l'un vers l'autre, c'est que comme c'est plus les mêmes métiers, les mêmes compétences, ils peuvent plus travailler l'un avec l'autre sur le terrain pour les missions qui leur sont propres. Ce n'est plus les mêmes métiers. Par contre, l'idée de regrouper tous les gens de terrain à la caserne de la Maladière, c'est justement pour qu'ils collaborent ensemble sur des problématiques de sécurité dans leur ensemble.
Des propos recueillis par Yann Esler. Le plus grand changement pour la population sera la centrale téléphonique qui devient unique au numéro 032 717 70 70. Les logos actuels seront aussi abandonnés au profit du blason de la ville qui ornera désormais les véhicules et les uniformes. Regardez le Locle d'aujourd'hui dans le miroir du passé. C'est l'expérience proposée aux lecteurs grâce à un nouvel ouvrage paru aux éditions Jet d'encre. Passé, présent, le Locle à tous les temps, c'est son titre, compare des clichés historiques de la mère commune à des photos prises au même endroit de nos jours. L'ouvrage est signé par la conservatrice des moulins souterrains du Col des Roches, Caroline Calam, pour la partie historique, et Catherine Meyer pour les photographies actuelles. Les différences sont étonnantes. Certains quartiers ont parfois traversé le temps sans connaître beaucoup de changements, alors que des bâtiments tels que l'usine de chocolat Klaus ont aujourd'hui disparu. Pourtant, il y avait une volonté de ne pas tomber dans la nostalgie, les explications de Caroline Calam.
C'est vrai qu'on a tous tendance à se dire c'était plus beau avant, après c'est assez subjectif. Notre but c'était plutôt au contraire d'attirer l'attention sur ce qui est là, sur ce qui est encore très beau et que souvent on ne regarde pas et de nous permettre de regarder le Locle un peu autrement, comme si on était en vacances et puis qu'on soit enfin attentif à ce qui est autour de nous.
Finalement, dans cet ouvrage, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé?
On va parler du quartier neuf par exemple qui est pratiquement à l'identique de ce qu'il était auparavant. Alors du point de vue des bâtiments, du point de vue de la vie sociale, c'est évidemment très différent. Au centre-ville, évidemment, on a des bâtiments comme la COP, comme l'Hôtel des Trois-Rois qui ont énormément changé. Donc, on a des contrastes considérables. Donc, on a vraiment les deux aspects ont des changements absolus ou même on ne sait plus très bien où on est. Quand on essaye de repérer l'ancienne photo, on n'est pas toujours très sûr de l'endroit où il faut se placer. Et puis, au contraire, alors des endroits où il suffit de fermer un peu les yeux pour se croire encore en 1890.
Caroline Calam répondait à Léonard Reichen. Ces photographies seront l'objet de la nouvelle exposition temporaire des moulins souterrains du Col des Roches, à découvrir dès le 21 janvier. Le tableau de Gustave Courbet se dévoile au public. L'œuvre léguée au canton du Jura cet été est désormais exposée au musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont. La peinture représente un pont de pierre enjambant un cours d'eau entre deux pans rocheux. La conservatrice du musée jurassien d'art et d'histoire, Nathalie Fleury.
L'idée pour nous, c'est évidemment de l'inscrire déjà dans le parcours permanent, c'est-à-dire de lui donner aussi une place importante, enfin sa place aussi à travers toute la problématique du paysage. Et on a développé une petite application sur un écran tactile qui permet finalement aux visiteurs d'entrer un petit peu davantage dans l'œuvre, en tout cas de la découvrir, de découvrir plus précisément son histoire, son parcours, découvrir aussi un peu l'histoire de Gustave Courbet en images, mais aussi en petites séquences vidéo, et finalement d'aborder aussi les caractéristiques de l'œuvre.
Le musée jurassien d'art et d'histoire ouvrira gratuitement ses portes au public de vendredi à dimanche. Une collision frontale a fait 2 morts ce matin dans le tunnel routier du Gothard. 4 personnes ont été blessées, fortement endommagées. Le tunnel est resté fermé jusqu'à 15h30. Le trafic était dévié jusqu'alors par la route du centre Bernardino. Un collaborateur des CFF bientôt devant le tribunal pénal fédéral. Il devra répondre de corruption, escroquerie et blanchiment d'argent. Cet homme est accusé d'avoir passé illégalement plus de 600 commandes directement auprès de sociétés, de s'être enrichi de 1 800 000 francs. Ce chef de projet dans le secteur des installations électriques aurait ainsi agi d'avril 2003 à mars 2014. Les parlementaires suisses vont pouvoir confier leurs problèmes de harcèlement à des spécialistes. Les présidents et vice-présidents du national et des États ont mandaté une structure indépendante pour offrir des conseils juridiques et des conseils psychologiques aux élus qui en ressentent le besoin. La mise à disposition gratuite d'une ligne téléphonique et d'entretien a été annoncée ce matin. Elle fait suite aux dénonciations survenues dans le cadre de l'affaire Butet. Isabelle Moret, deuxième vice-présidente du Conseil national.
Maintenant, il y a cette réponse organisationnelle qui est mise à disposition. Et ensuite, encore une fois, c'est la responsabilité de chaque chef de groupe de rappeler les règles de bienséance entre hommes et femmes. On l'a rappelé dans le cadre d'un petit courrier envoyé à tous les parlementaires, un extrait du code de comportement qui existe au sein de la Confédération. Il y a parfois certains basiques qu'il faut rappeler. On l'a très bien vu dans les médias. Parfois, la différence entre simple flirt et harcèlement n'est pas facile à comprendre pour tout le monde, et donc le rappeler de manière institutionnelle me semblait nécessaire.
Ces dispositions sont prises dans un climat lourd au Parlement. Mathias Reinhardt, conseiller national socialiste.
C'est pas la panacée, ça suffit pas, c'est clair, mais c'est déjà des mesures qui vont dans le bon sens. On voit ces derniers jours la difficulté pour les femmes victimes de harcèlement sexuel de parler. Lorsqu'elles ne parlent pas, on les accuse d'être complices. Lorsqu'elles parlent anonymement, on les accuse d'être lâches. Puis quand elles osent parler, comme c'est le cas avec Céline Amaudru, elles sont culpabilisées, on remet en doute leur parole. Donc c'est un contexte extrêmement difficile pour les femmes, et c'est donc normal d'avoir un lieu neutre, sécurisant, où elles peuvent aller parler. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande dans toutes les entreprises. Donc on peut pas recommander ça partout puis pas le faire chez nous.
Le mandat de la structure indépendante de conseil sera réexaminé dans 1 an. Les coûts estimés à 3600 francs sont pris en charge par le Parlement. Les cloches de l'église réformée de Wädenswil dans le canton de Zurich pourront continuer de sonner la nuit tous les quarts d'heure. Le tribunal fédéral a tranché en faveur de la commune et de la paroisse réformée. 2 journalistes de l'agence Reuters ont été arrêtés en Birmanie pour détention d'importants documents de sécurité. Le gouvernement du Myanmar l'a annoncé aujourd'hui. Il a montré une photo des 2 journalistes menottés devant des documents éparpillés. Jérusalem Est, capitale de la Palestine, les leaders du monde musulman ripostent 1 semaine après la déclaration du président américain Donald Trump. Ils appellent désormais le monde à reconnaître la partie Est de la ville sainte comme capitale d'un État palestinien. Position adoptée aujourd'hui à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'organisation de la conférence islamique à Istanbul.
RTN, il est 18h09.
Sport. Un ticket pour le Final Four de la Coupe de la Ligue de basketball est en jeu. Union Neuchâtel accueille Sam Massagno ce soir dès 19h30 à la Riveraine. En cas de succès contre les Tessinois, les basketteurs du littoral prendront part aux demi-finales de la compétition les 27 et 28 janvier à Montreux. La nouvelle recrue, Milovan Rakovic, est qualifiée et figurera sur la feuille de match. Arrivé à Neuchâtel dimanche, le Serbe devrait jouer ses premières minutes avec le maillot d'Union. Jean-Paul Pichy nous dresse son portrait.
2,08 m, 125 kg, Milovan Rakovic est un véritable colosse. L'intérieur serbe de 32 ans devrait à coup sûr faire de la place sous les paniers. Mais au-delà de son physique impressionnant, c'est un joueur d'expérience avec un joli palmarès que s'est dégoté Union Neuchâtel. Champion d'Europe des moins de 16 ans avec la Yougoslavie en 2011. 4 ans plus tard, avec cette fois-ci la Serbie-Monténégro, il se part de bronze au championnat d'Europe des moins de 20 ans. Sa carrière en club est riche et le bonhomme a le goût du voyage. Il a évolué dans les championnats de Russie, d'Italie, de Lituanie, d'Espagne et de Turquie. Lors de la saison 2011-2012 avec l'équipe transalpine de Montepaschi Sienne, il rafle le championnat, la coupe et la supercoupe. Il enrichit également sa fiche d'une 3e place en Euroleague, l'équivalent de la Ligue des champions de football. Puis le pivot prend la direction de la Lituanie et du Žalgiris Kaunas. Il décroche alors le titre, la coupe et la Ligue baltique. On peut encore ajouter une place de finaliste de l'Eurocup avec la formation espagnole de Bilbao. C'était en 2013. Milovan Rakovic a donc écumé les meilleurs championnats d'Europe et il n'est pas habituel de voir un tel joueur en Suisse. Le public neuchâtelois risque donc de s'en mettre plein les pupilles.
Union Neuchâtel, Sam Massagno, match qualificatif pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue de basketball. C'est ce soir à la Riveraine dès 19h30. Morges, une nouvelle fois sur la route du HC Université Neuchâtel. Les hockeyeurs du littoral se déplacent dans le canton de Vaud pour y affronter Star Forward ce soir à 20h45 en My Sports League. Les hommes de Marc Goudreau s'étaient inclinés 4-2 samedi soir contre ce même adversaire. Ils essaieront donc de prendre leur revanche. Les skieurs américains à l'aise lors du premier entraînement en vue de la descente homme de Val Gardena en Italie. À la surprise générale, Jared Goldberg a devancé son compatriote Willey Maple cet après-midi. Quant aux Suisses, ils ont plutôt brillé par leur discrétion. Ralph Weber a fini 26e alors que Beat Feutz s'est classé au 29e rang. Un coup de tonnerre frappe le monde du cyclisme. Chris Froome a été contrôlé positif à une substance interdite, le salbutamol. C'est l'Union cycliste internationale qui l'a révélé aujourd'hui. Le Britannique a été pincé lors du Tour d'Espagne en septembre. Il avait d'ailleurs remporté cette épreuve. Chris Froome présente un taux 2 fois supérieur à la limite autorisée. Le salbutamol est utilisé pour traiter l'asthme. Le coureur de la Sky aurait augmenté sa dose pour faire face à une crise aiguë. La réaction de notre consultant cyclisme, Christophe Moreau.
Bien sûr, il y a un contrôle positif à une molécule, et en l'occurrence le salbutamol, qui est prévu pour des crises d'asthme. Donc oui, il y a un contrôle positif, mais par contre, on peut quand même dire que ce n'est pas ce contrôle positif qui lui a fait gagner le Tour d'Espagne au mois de septembre.
Mais clairement, pour le grand public ou pour l'Union cycliste internationale, on est en train de parler d'un cas de dopage.
Bien sûr que Chris Froome, comme tous les autres coureurs du cyclisme international, sont soumis à des règles de l'UCI et de l'Agence mondiale antidopage. Il y a des produits qui sont proscrits, des produits qui sont soumis à restrictions sous contrôle médical et certificat médical. C'est le cas pour Christopher Froome. Seulement, comment a-t-il pu faire pour dépasser cette limite autorisée de taux de salbutamol dans son sang? C'est la grande question qu'il faudra qu'il réponde. En tout cas, c'est vrai que brutalement, maintenant, aujourd'hui, Christopher Froome est positif. Et c'est vrai que lorsqu'on a gagné le Tour de France et qu'on a vu ses velléités dans les différents cols et les différentes ascensions du Tour et sa suprématie, malheureusement, on peut encore se poser des questions.
Christophe Moreau, téléphone de Mathieu Schaffner. Chris Froome pourrait perdre sa victoire dans la Vuelta. Il risque aussi d'être suspendu.
Et puis vous dire également qu'on reviendra sur cette affaire, sur l'affaire Froome et sur le cyclisme vendredi dès 18h30 dans l'émission Cap Sport. Toute l'actualité, vous la retrouvez maintenant sur rtn.ch et sur notre application que vous pouvez télécharger ou mettre à jour, recevoir toutes les informations et notamment quelques push, des petites notifications pour ne rien rater de ce qui se passe dans la région. Ciel couvert et averse au menu météo de cette soirée et pour la nuit prochaine également. La limite pluie-neige devrait remonter progressivement et s'établir entre 1100 et 1300 mètres d'altitude. Demain, le temps restera perturbé, agité et venteux avec un ciel nuageux accompagné de fréquentes averses localement soutenues. La limite de la neige sera très variable. Elle oscillera entre 800 et 1200 mètres d'altitude tout au long de la journée. Les températures 1 à 2 degrés en montagne, 5 à 6 autour du lac. Et puis pour la suite, vendredi, le ciel sera encore nuageux avec les dernières averses en tout début de journée. Passage ensuite à un temps sec et accompagné même de quelques éclaircies. Retour des nuages et des précipitations pour la fin de journée.